podcast France Culture.
Dans ce personnage en personne, je m'attache à l'un des plus fameux et délicieux personnages inventés par Proust dans « À la recherche du temps perdu », Oriane de Guermantes. Elle est belle, brillante, rusée, spirituelle et parfois pire.
C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit « v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots ».
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Marcel Proust, écrivain, 1871-1922. Œuvre à la recherche du temps perdu, roman, 1913-1927. Personnage, Oriane, princesse des Laumes, puis duchesse de Guermantes. Adaptation, en bande dessinée, mais surtout à la télévision, au théâtre et au cinéma, avec notamment Raoul Ruiz, Le Temps Retrouvé, où Edith Skob interprétait le rôle d'Oriane, et Un amour de Swann de Volker Schlöndorff, Fanny Ardant jouant la Duchesse. Oriane, Oriane, Oriane. Ce prénom inventé par Proust, ce prénom de personnage, est depuis devenu le prénom de personne, par exemple de la romancière Oriane Jeancourt-Galignani. C'est un des plus grands triomphes qui soit pour un romancier que le monde de son imagination modifie le monde physique. C'est encore récemment arrivé à Proust quand la préfète d'Eure-et-Loir, Fadela Benrabia, a interdit, par un arrêté du 15 octobre 2021, la construction d'éoliennes près d'Illiers-Combray, nom qui lui aussi est une manifestation du triomphe de l'imagination de Proust sur le monde physique, puisque le village d'Illiers, dont il s'est plus ou moins inspiré pour le village de Combray dans son roman, est devenu Illiers-Combray à l'occasion du centenaire de sa naissance en 1971. La préfète a fondé sa décision sur le fait qu'il existe autour d'Illiers une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP, suivant les poétiques acronymes que savent inventer les bureaucrates. Mais si le nom est laid, l'idée est belle, car la préfète conclut, je la cite, « Cette approche du paysage élargi répond aux descriptions évoquées dans l'œuvre de Marcel Proust du village d'Illiers-Combray, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire. Voici donc la littérature incluse dans la géographie française, ce qui après tout n'est que justice dans le pays le plus littéraire du monde. » Oriane de Guermantes a plus d'un lien avec Combray puisqu'elle possède une propriété à proximité et que surtout, dans l'église de Combray, une de ses ancêtres est représentée sur une tapisserie qui fait rêver le narrateur, lequel n'a qu'une aspiration, la rencontrer. Il va y parvenir et Oriane deviendra une de ses amies, enfin amie, dans le sens que cela pouvait avoir dans ce qu'on appelait le monde, je crois que nous en parlerons. Qui est Oriane de Guermantes? Pour en parler, je reçois Mathilde Brézé qui publiera en janvier un dictionnaire des personnages de Proust, Le Grand Monde de Proust, chez Grasset. Mathilde Brézé, dites-moi pour commencer, à quoi ressemble physiquement Oriane de Guermantes? Évidemment au début du roman, puisque le roman est très long, mais au début du roman, à quoi elle ressemble?
Alors physiquement, Oriane est une belle femme, une très belle femme. C'est souligné plusieurs fois par le narrateur. C'est une blonde. Elle a les yeux bleus. Autre détail, on nous dit qu'elle a le nez busqué. Mais ce nez associé à une certaine forme de ses yeux lui donne un peu l'air d'un oiseau. C'est la comparaison, je crois, qui revient le plus sous la plume de Proust. Elle a les yeux à fleur de tête. Et la première fois que le narrateur la voit, une fois qu'il est adulte, à l'opéra, elle est coiffée, nous dit-il, d'une simple aigrette qui lui donne encore davantage l'air de dominer le monde.
Et l'air d'un oiseau.
Et l'air d'un oiseau, tout à fait.
On la connaît d'abord, je le disais, sous le titre de Princesse des Laumes, le titre porté par les fils aînés des ducs de Guermantes, son beau-père étant encore vivant quand elle s'est mariée. Beau-père dont on ne sait rien, mais ce qu'on sait, c'est l'illustre ancienneté de la famille des Guermantes.
Oui, vous parliez tout à l'heure de l'église de Combray, qui appartenait aux Guermantes. La crypte de cette église est certifiée mérovingienne par le bon curé qui l'a fait visiter. Mais en fait, les Guermantes traversent toute l'histoire, puisqu'il y a ce passé mérovingien, il y a aussi un passé capétien. Et en fait, Proust traverse, je crois, toutes les périodes qui l'amusent, qui parlent à son imagination.
Ils sont aussi apparentés à la famille de France.
Oui, Charles insiste là-dessus, plus noble encore que la famille de France. On comprend à ses paroles qu'il estime que le trône aurait dû leur revenir, d'ailleurs.
Vous avez raison en disant que la famille traverse l'histoire de France à une exception très très importante, c'est qu'elle ne traverse pas l'Empire. Il n'y a pas dans Proust, enfin dans La Recherche du Temps Perdu, de mention que ces gens-là se soient alliés moindrement avec la noblesse impériale, et ça compte beaucoup parce qu'ils font partie de la noblesse du Faubourg Saint-Germain.
Bien sûr, Oriane est un peu moins snob que Charlus, mais lui insiste beaucoup et un jour on l'entendra dire à propos de la princesse Diana. Diana, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de reine qui couche sous les ponts, je crois.
La chose amusante pour nous et importante pour elle, c'est que Oriane est doublement Guermantes.
Oui, c'est la seule qui peut signer Guermantes-Guermantes. Et alors ça, c'est le Graal.
Parce qu'elle vient d'une branche.
Alors oui, l'arbre généalogique de la famille Guermantes est assez complexe. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est une cousine de son mari. Mm-hmm. C'est une cousine de Bazin, par deux côtés. Cousine... Du côté des hommes, ça c'est la branche inconnue, qu'on connaît mal, du côté de son père. En revanche, du côté de sa mère, on sait que sa mère était la sœur de Madame de Villeparisis. Ces deux femmes étant donc elles-mêmes les sœurs de la mère de Bazin de Guermantes. Et d'ailleurs, c'est Madame de Villeparisis qui a recueilli Oriane à la mort de ses parents. Car Oriane de Guermantes est une orpheline.
Je vais me permettre de faire le cuistre un quart de seconde, chère Mathilde Brézé. Je crois, et le narrateur le précise, qu'on dit « Villeparisis » et pas « Villeparisis » comme le nom s'écrit. Alors, je l'ai dit, le narrateur développe de grandes songeries sur la duchesse de Guermantes. Il la mythifie beaucoup, il la mythifie en esprit. Et c'est dû en particulier à cette église de Combray. Et un objet spécifique dans cette église.
Oui, c'est la tapisserie dont vous en parliez de Geneviève de Brabant. Mais il y a aussi un autre objet qui va être un vitrail. Un vitrail qui représente, je crois, Judith. Mais dont on dit de ce vitrail que c'est une ancêtre guermante qui aurait été utilisée, ou plutôt qui aurait été croquée par l'artiste qui l'a réalisé. Donc le narrateur, enfant qui a une imagination galopante, prête immédiatement les traits de cette Judith royale à cette mythique duchesse de Guermantes qu'il n'a pas encore rencontrée.
Il faut dire d'ailleurs, vous parlez de généalogie, le narrateur n'est pas toujours, et le livre n'est pas toujours très précis, parce que par exemple on parle de Combray, et dans le roman on n'arrive pas bien à savoir à qui appartient la maison de Combray, si c'est à la grand-mère, si c'est à la tante, donc ça fait partie d'une fluidité au fond assez proustienne, il s'attache de façon moins méticuleuse qu'il n'en a l'air à ces choses-là.
Oui, ce qu'il aime je crois c'est pas la généalogie, c'est l'effet de généalogie. Ce qu'il veut c'est donner de la profondeur à ses personnages, que ces personnages puissent incarner cet amour que lui-même porte à l'histoire et à l'histoire de France.
Alors le narrateur presse Robert de Saint-Loup de lui faire connaître sa tante, puisque Robert est le neveu d'Oriane.
D'ailleurs, ce désir de rencontrer sa tante est la raison pour laquelle il rend une visite à Saint-Loup, à Doncières, là où Saint-Loup est en garnison. C'est le côté, j'allais dire, pas très sympathique de ce narrateur, qui est quand même fréquemment intéressé, et qui donc se dit que cette visite à son ami va être l'occasion de rencontrer sa tante, mais même plus concrètement, et là ça devient franchement gênant, d'obtenir la photo d'Oriane de Guermantes.
Et il va arriver à ses fins, pas tout à fait comme il s'y attendait, mais ça c'est un mécanisme très proustien. Et nous sommes amenés à mieux connaître Oriane de Guermantes, parce qu'à Paris, les parents du narrateur deviennent locataires dans l'hôtel de Guermantes, n'est-ce pas ?
Oui, et alors à cette époque de sa vie...
À quel âge d'abord, à peu près, à cette époque de sa vie ? On ne sait pas les âges.
Il est adolescent, mais on va dire qu'il est, il est jeune homme.
Oui, c'est ça.
Il doit être jeune homme, il doit 16 avoir 17 ans, 18 ans, tout ouais, ça, ouais, et un peu flou. À cette époque de sa vie, donc, le voilà enfin qui habite tout près de son idole. Alors d'abord, ça a été l'occasion d'une première déception, puisqu'on lui parlait de l'hôtel de Guermantes, lui était dans son imaginaire médiéval, donc il imaginait des tourelles, des ponts-levis. Bon, il est un peu déçu. Mais on lui dit qu'elle a la première situation dans le Faubourg Saint-Germain, et là, le côté mondain de la duchesse vient relayer le fantasme dans son imagination.
Il faudrait expliquer, pour ceux qui ne le savaient pas, ce qu'a voulu dire à l'époque le Faubourg Saint-Germain, socialement parlant, je veux dire.
C'est la crème de la crème, c'est
C'était un quartier de Paris qui était quelques rues entre, disons, ce qui était actuellement le boulevard Raspail et les Invalides.
Et dans ce quartier habitaient toutes les héritiers des grandes familles qui avaient fait la France, qui étaient encore à cette époque à la fois très, très riches et très sociables.
Et des grandes familles, encore une fois, c'est important aussi, des grandes familles d'ancien régime. car par exemple sous le Second Empire, le faubourg Saint-Germain faisait la gueule, si je puis dire, et ne participait pas à la cour de Napoléon III parce qu'ils étaient d'ancien régime. Et donc c'est aussi un signe que Oriane fait partie, un autre signe que cette qu'Oriane fait partie de cette noblesse-là. Est-ce que l'adresse est moindrement signalée dans le roman?
Je ne crois pas l'avoir en tête.
Alors, ce qui est important dans le roman, et peut-être plus encore dans la vie de Proust, ce sont, je crois, c'est une notion aujourd'hui à peu près morte, c'est la notion de rive droite et de rive gauche.
Oui, rive gauche donc se trouve le faubourg Saint-Germain, Madame de Villeparisis, Oriane, tous ces gens qui sont qui constituent une famille, hein, évidemment. Tout le monde est cousin à des degrés divers. Et il y a la rive droite où habitent les gens comme Odette, qu'on pourrait assimiler d'ailleurs à d'autres personnages de littérature, les nanas de Zola, enfin toutes ces femmes et hommes d'ailleurs, à la tête d'une certaine fortune, mais d'une fortune qui n'est pas ancienne et qui n'est certainement pas nobiliaire. Et donc là habitent, disons, les riches bourgeois de Paris.
Et Proust.
Et Proust, effectivement.
Car je crois que ça a contribué en partie au mépris qu'on a eu. Parce que maintenant que Proust a gagné et que Proust est devenu Proust, on a l'impression qu'il a toujours été triomphant. Mais il a été assez longtemps méprisé. Et en particulier parce qu'il vivait rive droite. Ce qui voulait dire bourgeois d'argent, un peu second empire, etc. Alors que la noblesse intellectuelle, si je puis dire, depuis le Moyen-Âge est rive gauche et que son grand ennemi Gide habitait rue Vanneau. Et c'était des choses, à l'époque, très importantes.
Oui, tout à fait. Et ça, on sent d'ailleurs dans ce livre cette tension qui existe, puisque c'est un détail, hein, mais Odette, si vous voulez, la rive gauche a du mépris pour la rive droite, mais l'inverse est vrai aussi. Et Odette, par exemple, va beaucoup s'étonner de l'adresse de Swann, qui, je crois, habite rive gauche, justement, et trouver que c'est un quartier, dans son imaginaire, pas du tout convenable et qui conviendrait plutôt à quelqu'un qu'elle imagine assez pauvre et sans aucune importance.
Alors, il faut dire aussi que Odette a un sens social un peu singulier puisque c'est une cocotte et que, par-dessus le marché, on le sait par le roman, elle n'est pas d'une intelligence suprême.
Bien sûr. Quand la liste de ses goûts par Proust est un des grands, grands moments d'un amour de Swann. On apprend les cafés qu'elle préfère, les bals, et il n'y a pas besoin
les opérettes.
Voilà, il n'y a pas besoin de connaître exactement la vie sociale de cette époque pour se rendre compte que tout ça a assez peu de valeur.
Alors, pour en revenir à Oriane, elle fait partie, et c'est très important, d'une famille, mais c'est plus qu'une famille. Il y a donc son mari, le duc, qui est Bazin, il y a son beau-frère, le prince, qui est très important aussi dans le roman, et la princesse, dont elle est cousine. Ils se voient sans cesse, mais plus qu'une famille, c'est un clan.
Oui, c'est un clan qui se reçoit, qui se fréquente, et qui s'indique les uns aux autres qui est admis dans le clan et qui ne l'est pas. Et une des raisons, je pense, pour lesquels, assez brutalement, au fond, le narrateur va se retrouver invité chez cette duchesse, qu'il admire, qu'il a un peu suivi aussi. Il s'est posté longtemps sur le chemin de ses promenades, elle l'a aperçu, mais elle ne le connaît pas, elle ne l'invite pas chez lui. Une des raisons pour lesquelles il se retrouve brutalement invité chez elle, alors qu'on n'attendait plus cette invitation, c'est parce que Saint-Loup, le neveu de la duchesse, lui a désigné comme son meilleur ami, et parce que, aussi, je crois, elle le rencontre chez Madame de Villeparisis, une après-midi. Et voilà, en quelque sorte, deux tickets d'entrée pour le narrateur chez la duchesse.
Chose aussi qui arrive pour le clan Guermantes avec Charles Swann, qui est aggloméré à ce clan. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est... Alors, donc, tout le monde connaît Swann, mais il est aggloméré à ce clan parce que c'est un grand mondain, etc. Et il est un peu sorti du clan au moment où il vit avec Odette et Oriane trouve Odette infréquentable.
Oui. Et c'est une des grandes douleurs de Charles Swann, c'est de ne jamais pouvoir présenter sa femme et sa fille à sa meilleure amie, Oriane de Guermantes, car les deux forment une paire, ils sont inséparables. Et s'il est si bien accepté et si reçu, c'est sans doute aussi à cause de l'affection qu'Oriane lui témoigne.
Oriane a cette politesse exquise qui, le narrateur le montre bien, peut-être aussi une forme de dédain et... C'est probablement la marque de toute sa classe. On est d'autant plus courtois qu'on considère qu'on parle à un inférieur et la courtoisie est même d'autant plus marquée.
Oui, elle a, comme son mari d'ailleurs, des manières exquises. Son mari peut devenir... Ses manières exquises peuvent cacher une brutalité, parfois franche. Oriane n'est pas brutale, mais elle peut faire comprendre par des insinuations, par des simples tons de phrases, des dédains qui sont des arrêts de mort.
Oriane de Guermantes est un être de robe. Quand le narrateur la décrit, c'est très souvent en tenue de soirée et elle porte des robes sublimes qui la refont passer de son statut de femme du monde qu'il a découvert à son ancien statut mythifié. C'est-à-dire que la robe chez Oriane est quelque chose de plus qu'une robe.
Oui, mais d'ailleurs, je crois dans toute la recherche, le véritable exercice de la féminité chez Proust, c'est pas l'amour, c'est pas la maternité, ça va être l'élégance, ça va être la toilette. Et Oriane de Guermantes est la grande reine de l'élégance dans ce livre.
Et puis il y a aussi, peut-être ce qui est le comble du chic, peut-être qu'on pourrait dire qu'Oriane est un peu trop chic, il y a le comble du chic et Madame de Villeparisis qui a le côté chaisière.
Ah oui.
Ça c'est quand même le plus chic, quoi, être habillée comme une chaisière.
Ah, quand Odette la voit, elle peut pas l'encaisser, Madame de Villeparisis. Elle se dit, mais qui, ça une duchesse, ça une comtesse, je peux pas le croire.
Nous allons maintenant entendre Oriane de Guermantes, interprétée par Fanny Ardant. Cet extrait du film Un amour de Swann de Volker Schlendorf, il date de 1984.
Ah, Charles, comme c'est bien de venir saluer sa vieille amie. D'ailleurs, en vous, Charles, tout est comme il faut. Ce que vous portez, ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous faites. Ma toilette vous plaît ?
Et naturellement.
Je suis ravie.
Qui y aura-t-il ce soir chez l'archiduchesse ?
Oh, le banc et l'arrière-banc, ce sera une tuerie à s'assommer.
On y aura invité de la dernière heure, le frère du roi Théodore.
Oh, mon Dieu, encore des princes. Ça peut être ennuyeux de dîner en ville, mon petit Charles. Nous avons l'intention, Bazin et moi, de passer le printemps prochain en Italie. Quel voyage ça serait si vous veniez avec nous? Il paraît que vous faites voir des choses qu'on ne verrait jamais sans ça. Vous ne me dites pas si vous viendrez en Italie avec nous?
Vous savez, je crois bien que ce ne sera pas possible.
Et comment, 10 mois à l'avance, pouvez-vous savoir que ce ne sera pas possible?
Oh, je vous le dirai si vous y tenez. Mais d'abord, vous voyez que je suis très souffrant.
Oui. Vous n'avez pas bonne mine du tout, mon petit Charles. Mais en 10 mois, on a le temps de se soigner.
Madame, monsieur vous attend dans la voiture.
Les médecins ne me donnent que 3 ou 4 mois à vivre.
Vous voulez plaisanter? Qu'est-ce que vous me dites là? Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Nous en reparlerons. Venez déjeuner. Le jour que vous voudrez.
Mathilde Brézé, dans ce personnage en personne où j'étudie le personnage d'Oriane de Guermantes, nous venons donc d'entendre Fanny Ardant dans son rôle avec sa belle voix veloutée, mais Oriane de Guermantes n'avait pas exactement une voix pareille, n'est-ce pas?
Non, Proust parle à plusieurs reprises de sa voix et le mot qui revient est un mot assez étonnant. Il parle de sa gouaille et en fait, Madame de Guermantes parle, ou plutôt a un parler paysan. C'est une de ces contradictions qui sont absolument savoureuses et qui sont la source de son charme. Elle est inattendue, elle est surprenante. Et sa voix en est une des marques, puisqu'elle affecte de parler de manière très peu mondaine, très peu polie et très peu affectée.
Oui, oui, elle dit des choses comme la cousine à Charlus, des choses comme ça. Mais elle a aussi une singularité, sa voix, c'est qu'elle est rauque. Elle est rauque et ça, dans la tonalité du roman, c'est une chose qui revient souvent. Le narrateur le marque souvent. Ce qui doit aussi probablement contribuer à cet aspect d'oiseau un peu crié ailleurs que vous signaliez tout à l'heure. Oriane, dans La recherche du temps perdu, au fond, est un personnage passif. Elle ne prend pas d'initiative, c'est un être tout de mondanité, de parole. Évidemment, elle ne travaille pas, mais elle ne fait même pas ce que faisaient les femmes du monde à l'époque, c'est-à-dire de l'aquarelle ou du piano. C'est-à-dire, elle ne fait positivement rien.
Non, c'est assez étonnant, sa tante peint, mais Oriane ne fait rien. Un jour, Swann lui apporte des photographies. Elle meuble peut-être en partie son hôtel de Guermantes. Mais son personnage est marqué par la passivité, comme vous le disiez, et c'est peut-être ce trait de caractère qui va l'amener à certaines trahisons, en amitié, en tout cas.
Par exemple ?
Je pense à son attitude avec Charles Swann, qui est un des grands sujets aussi du personnage, qui est de nous montrer cette femme merveilleuse, séduisante, charmante, manquée à 3 reprises à son ami. La première fois quand il lui annonce qu'il va mourir, c'est l'épisode, le final du côté de Guermantes qui est déchirant, absolument déchirant, ou n'ayant pas l'habitude en fait d'avoir une conversation si sérieuse avec un homme qui est pourtant son meilleur ami, on le disait tout à l'heure, se trouve... Le narrateur le dit comme ça, incapable de témoigner de la pitié à un homme qui va mourir. Il arrive, il lui dit « je vais bientôt mourir » et elle lui répond « non, non, on vous a effrayé, venez déjeuner, le jour que vous voulez, on déjeunera ». Et ça, c'est un des passages les plus terribles. Et ensuite, il y a deux autres prises dans le roman, une où elle lui refuse, alors qu'il est encore vivant, mais aux portes de la mort, elle lui refuse de recevoir sa femme et sa fille, au motif qu'il n'y aurait plus de monde si on commençait à recevoir tous les mourants. Et la dernière trahison qui enfonce le clou, en fait. Quelque part, elle ne peut plus être sauvée après ça. C'est dans Albertine disparue, elle va renier Swann devant Gilberte. Parce que pour un retournement habituel dans ce roman, ce que le personnage désiré n'arrive au moment où il ne le désire plus, ou en tout cas au moment où il est mort. La duchesse reçoit Gilberte. Et Gilberte, timidement, puisqu'elle sait qu'il s'est passé quelque chose avec son
Gilberte
père...
Gilberte étant la fille de Swann.
Gilberte étant la fille de Swann, oui. Lui demande, mais alors vous avez connu mon père ? Réponse mais sidérante de la duchesse pour qui a lu le livre. Oui, oui, je l'ai très bien connu. Je vais vous dire qui c'était. C'était un grand ami de ma belle-mère. Et aussi, il était très lié à mon beau-frère Palamède.
Elle n'est pas sans élan de méchanceté. Et visiblement, sa méchanceté vient de tout ce qui dérange ou son confort, ou son pouvoir social, ou son pouvoir de séduction. Par exemple, il y a aussi une scène où un de ses valets de pied, valet de chambre, elle apprend que son valet de chambre doit retrouver sa fiancée le lendemain. Elle invente un prétexte, une course complètement factice pour l'empêcher d'aller voir sa fiancée. Et il y a aussi des élans de méchanceté bien pires avec Saint-Loup, par exemple, où au moment de la guerre, elle refuse une lettre de recommandation.
Oui, pour le déplacer, il a été envoyé sur un front très dangereux. Et effectivement, on lui demande d'intervenir auprès d'un général qu'elle connaît. Et elle refuse.
Elle refuse. D'ailleurs, aidée par son mari, Bazin, qui n'aime pas non plus se déranger pour les autres. Mmh. Alors, avec tous ses défauts, elle a une chose qu'il nous faut absolument évoquer, c'est qu'elle a beaucoup d'esprit. Et il y a quelque chose qui est souvent relevé par le narrateur, c'est l'esprit des guermantes.
Oui, c'est la source même, je crois, du personnage. Proust l'a dit dans certaines de ses lettres, s'il a créé Oriane de Guermantes, ou plutôt s'il lui a donné tant d'esprit, s'il a écrit toutes ces pages qui sont absolument comiques et dans son livre, c'est notamment parce que, dit-il, il était déçu ou frustré d'entendre toujours Saint-Simon parler de l'esprit Mortemart sans jamais pouvoir savoir ce que c'était. Donc il lui a inventé, à Oriane de Guermantes, ce qu'il imagine être un esprit Mortemart. Donc c'est le sens de la formule, de l'ironie, du mordant, des images.
Elle est vive, elle est spirituelle, mais aussi elle est malheureuse. C'est une espèce d'oiseau de paradis qui vit une sorte d'enfer à cause de son mari, en particulier qui la trompe, qui est une... Bazin est une brute. Et par une ironie très proustienne, à la fin du roman, Bazin s'entiche même d'Odette, alors qu'Odette était une paria quelques années auparavant.
Oui, c'est terrible. Bazin a l'habitude d'amener, sans se déranger, toutes ses conquêtes à la table du ménage. Donc, notamment la première fois que le narrateur déjeune, dîne, chez la duchesse de Guermantes, accomplissement absolu, il y a le duc, la duchesse, un certain nombre de convives et Madame d'Arpajon, qui est à ce moment-là la maîtresse en titre du duc et qui d'ailleurs va bientôt se faire écarter pour une autre femme.
Nous disions qu'elle était passive, mais elle est là ultra passive parce qu'elle ne fait pas ce que tant de femmes de son milieu faisaient quand leur mari les trompait, ce qui était assez courant. Et d'ailleurs, les aristocrates avaient une notion beaucoup moins bourgeoise du couple. C'est qu'elle ne prend pas d'amant pour se venger, on aurait pu penser ça. Or, c'est la passivité totale, elle accepte ça.
Oriane est totalement déprise de toute sexualité. C'est très étonnant. Parce que, oui, La recherche du temps perdu est aussi un livre où il y a beaucoup de sexualité. Mais Oriane est à côté de cette sphère-là. Et je pense, moi, que c'est parce que Proust voulait se concentrer sur son manque de cœur, sur les trahisons que je vous ai décrites tout à l'heure. Je pense que son sujet, c'était de montrer que, justement, le vrai mal moral pouvait n'avoir rien à voir avec la sexualité et pouvait être purement dans le manque de cœur et dans le manque de compassion qu'on pouvait avoir pour la misère des autres.
Et puis, il y a aussi cette chose qui est très frappante chez elle, c'est qu'elle est uniquement dans l'apparence. Uniquement dans l'apparence, c'est ses robes, éventuellement ses mots. Comme toujours, comme les gens spirituels, elle ne se rend pas toujours compte qu'elle peut blesser par ses mots. Elle s'en fiche, c'est l'apparence.
Quels sont ses désirs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est chevillé au corps de Doriane, au cœur d'Oriane, à part tout ce qu'on vient de dire? C'est assez mystérieux.
Alors, une chose surprenante dans le jeu hydraulique de la société proustienne, ou plutôt pas surprenante du tout, c'est que des gens inattendus grimpent et descendent socialement. Évidemment, on a l'exemple parfait de Madame Verdurin qui devient princesse de Guermantes à la fin, à la suite d'une série de veuvages. Mais Oriane, à la fin, est tant soit peu déclassée, elle aussi.
Mais oui, c'est le pendant symétrique de la montée de Madame Verdurin, c'est terrible. En fait, Oriane de Guermantes, nous dit Proust, va se déclasser pour une raison assez étonnante, qui est son intérêt pour les arts, et notamment pour le théâtre. Elle va s'enticher de plus en plus d'intelligence, de culture, d'actrices, certaines actrices. Elle va devenir très amie avec Rachel, dont personne ne voulait entendre parler quand c'était la maîtresse de Saint-Loup. Et petit à petit, à force de recevoir ces gens, des gens de lettres, assez peu fréquentables en fait pour le Faubourg Saint-Germain, elle va se déclasser. Et le narrateur a cette phrase terrible qui est de dire que les nouveaux arrivants dans le Faubourg Saint-Germain, voyant Oriane de Guermantes, ne pensaient pas du tout que c'était la reine d'un monde disparu, mais se disaient que ça devait être une Guermantes déclassée, une Guermantes d'une moins bonne cuvée.
Sauf que de temps en temps, elle a des coups d'éclat et qu'elle décide de s'habiller sublimement et qu'elle arrive un peu en retard pour se faire remarquer et faire voir qui elle a été.
Oui, elle a l'art, je crois, du contre-pied. Et c'est ce qui a fait son grand succès dans ses meilleures années. C'est que quand tout le monde décide d'aller à un bal, elle reste chez elle. Quand tout le monde se presse pour arriver à l'heure, pour assister à une revue, elle arrive en retard. Elle a une vraie supériorité sur son milieu quand même. Oriane de Guermantes n'est pas simplement le Faubourg Saint-Germain, ses convenances et ses politesses. Elle a un truc que Proust a capté, qui est le charme, qui est la surprise, la vitalité, et elle étonne.
J'ai dit au début qu'elle devenait amie avec le narrateur, et je voudrais revenir là-dessus, parce que Proust, on le sait, ne croyait pas à la notion d'amitié du tout. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'Oriane de Guermantes parlant au narrateur à la fin de la soirée chez la princesse de Guermantes, c'est-à-dire à la toute fin du roman, que je voudrais citer parce que je la trouve à la fois révélatrice d'Oriane, de ce que pensait Proust de l'amitié, et déchirante. Et la phrase est ceci: « Adieu, je vous ai à peine parlé, c'est comme ça dans le monde, on ne se voit pas, on ne se dit pas les choses qu'on voudrait se dire, du reste, partout, c'est la même chose dans la vie, espérons qu'après la mort, ça sera mieux arrangé. »
Oui, c'est terrible.
C'est terrible, mais c'est assez beau en même temps.
Et c'est très beau.
Mathilde Brézé, que vous a appris le personnage d'Oriane de Guermantes?
Je garde deux images, je crois. Je garde cette image, comme tous les lecteurs, merveilleuse. Elle est fascinante, elle est sublime. On ne peut pas oublier Oriane, ses yeux bleus, ses toilettes. Et en même temps, elle m'a appris, je crois, la juste considération qu'il faut avoir pour ses grandeurs de représentation. Et les trahisons qu'a peint Proust au cœur de ce personnage amènent aussi à reconsidérer ce qu'il peut avoir de fascinant.
C'était Personnage en personne, le 143e.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Cédric Châtelus.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve.